Je donne maintenant la parole à son Excellence Albert Del Rosario, secrétaire des Affaires étrangères des Philippines.
Madame Vice President.
Madame la vice-présidente, au nom du gouvernement des Philippines, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses au président pour son élection. Je lui souhaite un plein succès et je peux l'assurer de l'appui indéfectible de mon pays à votre présidence. Monsieur le président, le thème qui a été retenu pour cette présidence et tombe à point nommé et est pertinent. Nous devons commencer à préparer le terrain pour le nouveau programme de développement qui sera le successeur du cadre des objectifs du millénaire pour le développement. À peine 2 ans avant la date butoir, il nous reste encore beaucoup de travail à abattre. Par exemple, la crise financière et économique mondiale a montré la nécessité de réformes vers une plus grande cohérence systémique. Le système commercial multilatéral reste gelé dans le passé et la persistance d'un paradigme de développement dépassé donne lieu à des prescriptions politiques et des conditionnalités qui portent atteinte aux intérêts de nombreux pays en développement. Madame la vice-présidente, alors que nous préparons le terrain pour le cadre pour l'après 2005, nous devons réaffirmer la raison d'être même des Nations Unies. C'est de donner à chaque personne la possibilité de vivre une vie qui soit sûre, digne et d'avoir droit au progrès. Cet objectif est inscrit dans la Constitution des Philippines et est au centre du contrat social avec le peuple philippin du président Benigno Aquino. Sous la présidence de M. Aquino et sa direction, mon pays s'est engagé sur une voie droite, ou comme on dit en philippin, Dang Matuwid, déterminé à œuvrer pour une croissance inclusive, pour lutter contre la corruption, pour promouvoir la transparence et la responsabilisation, améliorer la compétitivité mondiale, mieux utiliser les ressources, parvenir à une paix juste et durable et respecter l'état de droit. L'administration de Aquino dit que la bonne gouvernance est bonne pour l'économie. Et suite à cela, les Philippines commencent à récolter les premiers fruits de leur dur labeur. Au cours de ces 3 derniers trimestres, l'économie philippine a enregistré une croissance sans précédent de plus de 7%. Et en raison de cela, les Philippines ont maintenant gagné 3 notations en termes d'investissement et est considéré comme un moteur de croissance de la région. Ces rapports brillants sont bien entendu très bien accueillis par mon gouvernement, mais nous ne faisons aucune illusion, néanmoins que les syndicateurs à eux-mêmes constituent un succès. Au cours des 13 dernières années, les OMD ont été intégrés dans le plan de développement des Philippines pour 2011 à 2015, et pourtant le travail se poursuit, et les défis sont clairs. Nous devons nous assurer que la croissance soit inclusive, résiliente et durable. Alors que nous avançons sur la voie vers ce genre de croissance, mon gouvernement est guidé par les leçons importantes suivantes tirées de notre expérience de travailler vers les objectifs du millénaire pour le développement. Premièrement, des arrangements institutionnels forts sont nécessaires pour les Philippines. Cela signifie que l'appui politique le plus élevé doit être accordé à la réalisation des OMD avec la participation de toutes les branches du gouvernement et d'autres parties prenantes essentielles. Deuxièmement, les politiques spécifiques, des programmes et des projets qui doivent être alignés sur les objectifs de développement nationaux. Dans notre expérience avec les OMD, des programmes de protection sociale novateurs comprennent des transferts de fonds conditionnels, des soins de santé universels, la fourniture intégrée et globale de services sociaux, d'un programme d'éducation K12 essentiel, et un programme d'hypothèques communautaires. Troisièmement, la participation active de différentes parties prenantes, notamment le secteur privé, la société civile et les organisations non gouvernementales, les mandants et les partenaires pour le développement international doivent être promus et appuyés. Ceci permet de s'assurer que les politiques et les programmes réagissent aux besoins et soient inclusifs. Quatrièmement, des unités de gouvernement local devraient être autonomisées. Au-delà de la fourniture de services sociaux de base, les capacités des unités de gouvernement locaux pour formuler et mettre en œuvre des politiques et des programmes doivent être renforcées, guidé par les principes de transparence et de reddition de comptes. Cinquièmement, la capacité à générer des données précises en temps voulu et pertinentes au niveau local et national doit être renforcée. Et sixièmement, la réduction des risques de catastrophes doit être intégrée de façon généralisée pour permettre aux communautés de mieux résister à l'impact de catastrophes naturelles ou dues à l'homme. Constituer les capacités de parties prenantes locales et nationales pour aider à réduire les vulnérabilités et la résilience physique et économique des communautés doit être l'objectif de développement clé. Ces éléments importants permettront d'enrichir davantage le cadre d'assistance pour le développement de l'ONU, l'UNDAF, pour 2012-2018 pour les Philippines, avec comme thème général appuyer un développement pour tous durable et la résilience. L'UNDAF vise à aligner le travail de l'ONU avec le plan de développement des Philippines pour 2011-2016. Mon gouvernement participe activement aux discussions internationales sur le développement durable et à la rédaction ou la mise au point du programme de développement pour l'après 2015. Les Philippines ont fait partie de 66 pays choisis par l'ONU pour mener des consultations ouvertes, inclusives et transparentes avec une large gamme de parties prenantes en vue de générer des perspectives sur la façon avec la nature de ce cadre de développement pour l'après 2015. Nous avons pris cette tâche très au sérieux en engageant des consultations avec plus de 500 parties prenantes représentant les gouvernements, la société civile, les milieux d'affaires et les universités. Madame la vice-présidente, nos consultations nationales sur le programme de développement pour l'après 2015 ont identifié les pièces constitutives suivantes pour le nouveau cadre ainsi que les thèmes de développement qui sont les plus pertinents pour les Philippines. Ces blocs constitutifs sont composés de 4 principes, 5 thèmes et différents facteurs favorisant le développement et ont été offerts au système de l'ONU en tant que contribution des Philippines aux discussions en cours. Il suffit de se pencher sur la charte des Nations Unies pour identifier quels sont ces éléments constitutifs pour le programme de développement pour l'après 2015. Pour que ces derniers soient pertinents et réactifs, il faut qu'ils soient fondés sur 4 principes principaux, à savoir 1. Droits de l'homme, 2. Égalité, équité, autonomisation des personnes, cohésion sociale et justice, 3. Une gouvernance responsable et 4. Le développement inclusif. Pour mon pays, nous avons identifié 5 piliers qui, d'après nous, prendront en compte nos propres défis de développement. Ces piliers représentent les domaines où les progrès sont les plus nécessaires pour bâtir une société équitable, durable, basée sur les droits. Et ces piliers sont les suivants. Premièrement, réduction de la pauvreté et inclusion sociale. Deuxièmement, durabilité de l'environnement, viabilité de l'environnement, changement climatique et réduction des risques de catastrophes. Troisièmement, gouvernance responsable, réactive et participative. Quatrièmement, un ordre stable et juste basé sur l'état de droit international. Et cinquièmement, la paix et la sécurité. Mon gouvernement va formuler et mettre en œuvre des politiques qui seront définies par ces différents piliers. Ces politiques seront dûment intégrées dans le programme de développement national de mon pays et les progrès seront contrôlés à des intervalles réguliers. Sur le front mondial, les Philippines proposent que le programme de développement pour la période 2015 ait une durée de 10 ans avec un grand examen effectué en 2020. Les réformes devraient se produire au début de cette période pour ouvrir la voie pour de grandes réalisations d'ici 2020. Madame la vice-présidente, permettez-moi de donner davantage de détails sur des aspects, des principes et des thèmes proposés par les Philippines. Les Philippines continuent à aspirer à un système économique mondial qui place le développement au centre et qui promeuve la démocratie dans les décisions économiques internationales. En fin de compte, c'est à nous d'envisager des réformes du système économique mondial, alors que nous mettons au point un programme de développement durable à viser. Pour parvenir à de vraies réformes, ce dont nous avons besoin maintenant, c'est un élan politique fort. De la part de chacun d'entre nous, pour que cela puisse se produire, les gouvernements doivent dépasser leurs différences politiques et se mettre d'accord pour travailler ensemble, pour garantir que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Et c'est pour cette raison que les Philippines appuient vigoureusement le forum politique de haut niveau sur les objectifs de développement durable. Madame la vice-présidente, le programme de développement pour l'après 2015 devrait également examiner clairement les questions des migrations. Il s'agit d'une question transversale qui est importante pour nos efforts visant à promouvoir les droits de l'homme, réduire la pauvreté et favoriser le développement durable. Les Philippines, pour leur part, vont continuer à plaider pour la protection des droits des migrants, indépendamment de leur statut en tant qu'immigrants. La reconnaissance de la contribution positive des migrants au développement dans le pays d'origine et le pays de destination, ainsi que la création de programmes qui appuient les familles, en particulier les enfants qui restent derrière. Notre expérience nationale sur ces questions sera la contribution de mon gouvernement à la discussion lors du dialogue de haut niveau à venir sur la migration et le développement plus tard cette semaine. Et de plus, nous espérons inclure dans la discussion le sort des migrants qui se trouvent dans des situations de conflit. Une situation que mon gouvernement a dû examiner ces dernières années. Dans plusieurs cas, nous avons rapatrié des travailleurs philippins pour qu'ils ne subissent pas de mal. Notre expérience nous a donné beaucoup de leçons et a été enrichissante et a ouvert de nouvelles fenêtres de coopération avec nos partenaires bilatéraux ainsi qu'avec l'ONU, l'Organisation internationale pour les migrations et d'autres organisations internationales. Mon gouvernement aimerait que la discussion internationale se concentre sur le sort de ces migrants. La situation de ces migrants en vue de créer des plateformes créatives pour que les pays, qui soient des pays d'origine, de transit ou de destination, puissent mieux coopérer pour examiner ces questions complexes. Les Philippines espèrent que le dialogue de haut niveau réaffirmera le fait que la migration est un élément indispensable dans le programme de développement durable mondial. La migration a une influence sur la croissance socio-économique de chaque pays, son capital humain et la participation dans les affaires mondiales. Gérer la migration par le biais de politiques qui sauvegardent la dignité de l'individu devrait par conséquent être une composante vitale de l'agenda de développement de chaque nation et du monde. Madame la vice-présidente, atteindre le développement durable exige un environnement propice de paix, de sécurité et d'état de droit. Et c'est pour cela que l'approche de mon gouvernement pour la gestion des conflits au sein et à l'extérieur de nos frontières est enracinée dans le droit international. Et nous mettons à contribution les différents moyens de règlement pacifique des différends, notamment la médiation et l'arbitrage, conformément avec le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Comme déclaré par l'Assemblée générale dans la résolution 3710 sur le règlement pacifique des différends entre États, connu également sous le nom de Déclaration de Manille de 1982, le recours au règlement judiciaire de différents juridiques ne devrait pas être considéré comme un acte inamical entre les États. Au contraire, c'est une mesure qui permet de générer la clarté tout en bénéficiant à toutes les parties prenantes. Et dans cet esprit, mon pays réaffirme son appui sans faille à la Cour internationale de justice, ainsi que les différents tribunaux spécialisés, tels que les mécanismes de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Les Philippines ont également œuvré inlassablement pour le processus de paix dans le sud des Philippines. La signature d'accord cadre sur le Banc Samoro est un jalon à cet égard. Et nous restons engagés à parvenir à une paix juste et durable qui profitera à tous. De plus, et conformément avec l'application de l'état de droit et du règlement pacifique des différends, les Philippines, en tant qu'État partie à la Convention sur les armes chimiques et en tant que fervent partisan du désarmement de la non-prolifération des armes de destruction massive, se félicitent également de l'accession de la Syrie à ce traité. Les Philippines espèrent que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques aidera de façon effective le gouvernement syrien à éliminer ses stocks d'armes chimiques. L'engagement du gouvernement des Philippines envers la paix est déterminé. Cet engagement est prouvé par notre participation continue dans des missions de maintien de la paix de l'ONU, notamment dans la force d'observation du désengagement dans le Golan occupé, où, malgré les dangers, nos casques bleus ont maintenu leur place, leur courage de rester et de défendre cette ligne au moment le plus critique a permis à la FNUOD d'exercer son mandat, conformément à ce qui lui a été mandaté par le Conseil de sécurité. Madame la vice-présidente, le programme de développement pour la paix 2015 exige également que le gouvernement prenne en compte les effets dévastateurs du changement climatique et des catastrophes naturelles. Mon pays fait partie des pays le plus à risque en termes de typhons, de séismes, d'éruptions volcaniques et de tsunamis. En termes de gestion des catastrophes, mon gouvernement a institué un modèle en grappe qui permet de mobiliser à la fois les entités gouvernementales et non gouvernementales du niveau local et national, ainsi que les partenaires internationaux. L'ONU a reconnu ce modèle en tant que pratique optimale que d'autres pays pourraient émuler. Nous continuerons à partager nos connaissances et notre expérience pour la réduction des risques des catastrophes, l'état de préparation, la réponse et le relèvement pour aider d'autres États à mieux gérer des cas semblables. En 2015, nous participerons également activement au sommet humanitaire mondial et à l'examen du cadre d'action de IOGO, notre stratégie pour la coopération pour la réduction des risques des catastrophes. Madame la vice-présidente, l'année 2015 marque un point important dans l'histoire des nations. Cela marquera le début d'une nouvelle ère de développement durable. Et nous espérons une ère qui donnera à chaque individu sur cette planète une meilleure chance d'avoir une meilleure qualité de vie. Cela pourrait sembler ambitieux, cela pourrait sembler même très très difficile, et pourtant il s'agit d'une période historique et les moments historiques exigent beaucoup d'ambition. Notre héros national, Dr. José Rizal, a également reconnu l'importance de l'ambition et des idéaux. Il a écrit que la vie est inutile si elle n'est pas consacrée à un grand idéal. C'est comme une pierre dans un champ qui ne devient pas une partie d'un édifice. Madame la vice-présidente, faisons de ce programme de développement après 2015 cet édifice qui nous permettra de réaliser les rêves et les idéaux communs de l'humanité. Merci beaucoup.